d'encre noires et blanches si belles, on les croirait encore sablonneuses, l'heptanomide de Beniassan avec la felouque entre les hypogées, l'obélisque de Fayum, le château d'Alexandrie, tu te souviens, on les imagine groupés par trois ou quatre, nos savants suant sous leurs redingotes. Certains ont des airs butés d'anciens révolutionnaires, d'autres des têtes d'habiles, d'autres de belles têtes fades d'anciens régimes. Ils ont ouvert devant eux de grands cartons, sortis trépieds et chevalets, et ils dessinent, au milieu des soldats des indigènes. Et voilà, Pierre ouvrit un nouveau livre. La longue couverture heurtant la table fit sursauter l'un des lecteurs. Des cartouches mystérieux, des costumes ottomanes. Bussy donnait raison à Charles d'avoir conservé cette collection. Ces planches dégageaient un charme opiacé, la rencontre de l'Orient et de l'Occident, du froid et de la chaleur, de la droite et de la courbe, sous la plume ou le crayon d'homme qui sortait juste d'une secousse terrible. Pierre reprit, puis viennent les honneurs, la reconnaissance du maître. Jean-Auguste Dominique vivant chevalier de nom devient vivant de nom, le baron de nom. Il vole de droite et de gauche en Italie surtout, il achète le Gilles de Watteau, il dirige le mobilier national, il met des sphinx dorés au pied des fauteuils, il incline vers les belles parvenues sa vieille tête ironique. Napoléon se méfie quand même un peu, il flotte encore dans l'air un petit parfum de scandale. Oh bien sûr le temps a passé, il y a eu la Révolution, la Vendée, le Directoire et Joséphine, mais quand même, accouche fit sobrement Bussy. Termine ton éloge académique par un trait étonnant, parce que jusqu'ici d'accord, l'Égypte c'est bien, mais la carrière de ton bonhomme. Rien d'autre qu'un reptile à perruque se faufilant entre les régimes, et pas un gros reptile, un petit orvet bien doux au toucher. Quand il n'était encore que chevalier, dans les années 1780, Vivant a écrit un petit livre, 60 pages, point de lendemain, les libertins sans lendemain, voilà. Un jeune homme fait son éducation sentimentale. Il suit une dame de la société, la poursuit à travers des salons, des passages secrets, des recoins, et finit par la voir. Il se croit tout puissant, mais c'était seulement pour le plaisir de l'amant régulier de la dame, caché je ne sais plus où. Dans ce livre il n'y a rien que cette histoire. Vivant n'était pas un révolté, et pourtant, ça me rappelle Bussy, dit tristement Bussy. Pierre continua sur sa lancée, soit qu'il n'eût pas remarqué cette tristesse dans la voix de Bussy, soit qu'il voulût le distraire, car Pierre ne posait jamais de questions. Enfin, tout ça, ce n'est pas le genre empire. C'était un homme curieux Bonaparte, tout à fait 18e par certains côtés, mais en amour. C'était un artilleur, sourit Bussy, qui reprit, pour se changer les idées, moi, j'aime bien l'empire le premier, il y a de la poésie dans l'empire. La redingote grise, le chambertin, tout ce fatras à la Béranger est assez plaisant. Et cet homme au teint jaune dont les roues brûlent le sable, le pavé, la neige pendant près de 10 ans. Et puis ces noms curieux, la Moscova d'Albufra Rovigo Plaisance, Bussy prit un air supérieur à qui le dis-tu, l'Espagne, Suchet gouvernant ces petits diables huileux si fiers, on dit qu'il sied les percepteurs entre deux planches, à mon tour de t'apprendre quelque chose. Moi aussi j'ai mon personnage énigmatique, l'Empire est plein de mystères, le baron fin. Ça ne me dit rien, dit Pierre appuyé au dossier d'une chaise et qui pour marquer son intérêt prenait toujours l'accent de Paris. Tant mieux, le baron fin était un personnage très secret, un vrai secrétaire, le secrétaire de la main. Pendant la fin du règne il suivait l'empereur partout, il écrivait des lettres, que de fois il a dû vibrer, et sourire. Tu connais la lettre à Decret, où Napoléon dispense son ministre de la Marine de le comparer à Dieu, j'aurais beaucoup donné pour écrire celle-là. Enfin bref, il a dû pisser le sang aussi, par le poignet bien sûr le malheureux. Il a écrit des souvenirs, c'est bon c'est drôle, il voit tout à l'envers. Il ne voit pas des états, il voit des tentes, il ne voit pas des armées, il voit des soldats. Il tient le petit bout de la lorgnette de combat de l'empereur. C'est un homme droit. Les trahisons de la faim le dégoûtent. Malheureusement, les immoraux voient souvent plus juste. Enfin, c'était mieux que le second. Pierre réfléchit, pesa le pour et le contre, puis répondit. Oui, c'était mieux que le second. Tiens, regarde. Un croquis montrait la fête de la République au Caire, Le 22 septembre 1798, au milieu d'une place, une grande enceinte entourée de colonnes décorées de drapeaux tricolores, et pour y accéder un arc de triomphe au fronton frappé de la formule rituelle, « Il n'y a de Dieu que Dieu et Mahomet est son prophète ». Et, au milieu de l'enceinte, un obélisque de bois portant sur ses faces, à la République française l'ancêtre romain, à l'expulsion des Mamelouks, l'ancien romain et au pied de l'obélisque des généraux empanachés des membres de la commission des sciences et des arts, du Kieya du Pacha gouverneur et du divan. « Quelle folie !» murmura Bussy. « Les Français étaient trop nombreux !» répondit Pierre. Un à un les clients étaient partis. Le libraire arpenta les rayons. Il releva la disparition du livre de Strauss, l'explorateur, les règles de dévolution du pouvoir chez les Karens de Birmanie. Se pouvait-il que ce jeune homme tranquille, vêtu comme un séminariste, le jeune homme pauvre bénéficia de la sollicitude de Charles-Pierre, qui entreprit de fermer les volets. Bussy feuilletait les planches de la description de l'Égypte. « Tu as vu, dans le deuxième volume, une note et des croquis de l'ingénieur Lepère, à propos d'un tracé de canal ».